Merci d'être des nôtres à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour, 15h06. Comment ça se passe sur les routes présentement, Audrey?
C'est les ralentissements habituels. Il y a un accident si vous sortez, mettons, de Laurentienne, là, où vous allez plutôt prendre Laurentienne direction nord. Ça fait en sorte qu'il y a un petit ralentissement aussi sur la capitale direction ouest à la hauteur de Laurentienne. Si vous êtes sur capitale direction est, ça se passe plutôt là, en majorité à la hauteur de Robert Bourassa. Je vous dirais qu'à partir de Lormière, c'est difficile jusqu'à à peu près Laurentienne. Charest direction est, ça se passe à la hauteur de Robert Bourassa. Henri IV Sud, à partir de chemin Sainte-Foy, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée du pont La Porte. Pour ce qui est de la rive sud, ça va se passer surtout sur la 20 direction ouest, dans le coin de Taniata, un peu à la hauteur aussi de chemin des Îles.
Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je suis comme devenu, ou plutôt redevenu, un passionné d'histoire dans les dernières années. Puis je trouve qu'on oublie tellement vite des événements récents qu'une fois de temps en temps, regarder des décennies et même des siècles en arrière pour se raconter des histoires que plusieurs ne connaissent pas et que d'autres redécouvrent. Je trouve ça drôlement important. Aussi, on est chanceux depuis quelques années parce qu'on est bombardé, sans mauvais jeu de mots, d'un paquet de documentaires, d'images d'archives et ainsi de suite. Ça devient drôlement intéressant. Je vous ai parlé des documentaires sur Netflix que je vous recommande sur la course atomique, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la guerre du Vietnam et ainsi de suite. Mais il y a des histoires relatives aux grands événements de notre monde qui se sont déroulés ici, puis on n'en a à peu près pas parlé. Et quand j'ai vu des textes là-dessus dans les dernières semaines, j'ai dit à Audrey, faut que tu nous bookes ces deux journalistes-là qui ont lancé un livre qui s'appelle « Le projet N ». Le projet N, c'est dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Grosse-Île, tout près d'ici. Il y avait un laboratoire ultra secret pour fabriquer des bombes à l'anthrax qui auraient suffi à exterminer la population de la planète 30 fois. Ils n'ont jamais servi.
Mais ça s'est fait, là. C'était là.
Puis après ça, de ce que j'ai compris, ils sauront nous le dire, ils ont tous dompé ça dans le fleuve. Les journalistes Yves Bernard et Vincent Frigon sont en studio avec nous. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de cette histoire-là autant que les autres histoires de la Deuxième Guerre?
C'est qu'on ne voulait pas que vous le sachiez, en fait. C'est que c'était un des plus grands secrets de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait la bombe atomique, le projet Manhattan.
Oui.
On connaît ça. Il y avait la machine pour décrypter les messages allemands, Enigma.
Oui.
Ça aussi, très grand secret à l'époque. Et puis, le projet N, bien, c'était la guerre biologique. On voulait se préparer en cas d'une guerre biologique.
C'est-tu parce qu'on s'en est pas servi que le secret est resté par en dessous comme ça?
Ben oui, je pense que c'est effectivement une des raisons. C'est que si on ne s'en sert pas, bon, on n'a pas besoin de le dévoiler. La bombe atomique, une fois qu'elle explose, c'est difficile de le cacher.
Mm-hmm.
Donc, effectivement, c'était un grand secret. Et on voulait se préparer parce que c'était les Allemands, durant la, si on se reporte, la Première Guerre mondiale, ils avaient introduit la guerre chimique, des bombes chimiques. Et là, on s'est dit, bien, pour la Seconde Guerre mondiale, ils vont sûrement aller plus loin. Puis l'étape suivante, c'était la guerre biologique avec notamment de l'anthrax. On voulait se préparer pour ça.
Quand vous dites « on vous laisse préparer
ouais. »,
c'est qui « on »
ben, ou, c'est ça. « On », c'est les alliés, c'est-à-dire des Canadiens. Il y avait Frederick Banting, qui était un médecin très connu à l'époque, prix Nobel, qui avait découvert l'insuline. Hein? Donc, lui, il était à la Première Guerre mondiale. Il était aux premières loges comme médecin. Il avait vu la dévastation de la guerre chimique. Et il dit, il faut qu'on se prépare mieux. Et donc, pour la Seconde Guerre mondiale, il avait milité, en quelque sorte, pour que les Britanniques embarquent et se préparent, parce qu'ils n'étaient pas trop chaud à cette idée-là. Mm-hmm. Churchill, lui, a embarqué. Lui, il a dit, écoutez, il faut qu'on se prépare. Je veux 500 000 de bombes à l'entrée. 500 000, c'est un arsenal là, de bombes qui contiennent des micro-bomblettes. Qui contiennent le bacille du charbon. L'anthrax, c'est une bactérie
oui.
qui peut tuer quand on la respire. Ça contamine nos poumons.
On en avait parlé beaucoup après le 11 septembre. Je pense que c'est là qu'il y a bien des gens qui ont appris c'était
exactement.
Quoi l'anthrax, parce qu'il y avait eu des menaces, il y avait des enveloppes qui avaient été envoyées. Mais tu sais, en général, d'entendre parler de l'avoir sous forme de micro-bombe, moi, je n'avais pas entendu ça.
Oui,
là.
Et l'objectif était de détruire les populations civiles de 5 villes d'Allemagne. On ne parle pas de détruire des armées. C'était volontairement détruire les populations de civils. J'ai dit 5, mais c'est civils oui. d'Allemagne.
Est-ce que le gouvernement Québécois étaient au courant de l'existence de cette usine-là?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Le gouvernement québécois,
hey, c'est
non.
dur à croire.
Non, non, non. Non, non, ben d'abord, c'était le gouvernement au fédéral, Mackenzie King, à mm-hmm. l'époque, lui aurait pu savoir, mais semble-t-il que ça ne l'intéressait pas vraiment, ces détails-là. Il y avait d'autres préoccupations. Il y a des scientifiques, bien sûr, qui étaient au courant, ceux qui étaient impliqués directement, mais même les militaires qui étaient sur l'île à Grosse-Île, la plupart, ils ne savaient pas. Ils avaient une idée qu'on faisait des expériences, mais ils ne savaient pas.
Combien de personnes étaient à Grosse-Île?
Pas loin d'une centaine.
À travailler là-dessus.
Oui, des soldats. Des soldats qui n'avaient pas été envoyés au front parce que c'était pas les meilleurs, disons. C'était okay. pas c'était des
la
gens
dernière
qui...
ligne, mettons.
Oui, c'est ça. Peut-être des gens qui des objecteurs peu, de conscience ouais. ou des gens qui avaient des problèmes de discipline. OK. Comme le
on leur faisait William. Moins confiance pour les envoyer à l'étranger, fait qu'on les gardait ici.
Ben, en tout cas, André William, qui était soldat, qu'on a pu interviewer, est encore vivant. Il nous a raconté qu'effectivement, lui, il avait eu des problèmes de discipline. On lui a dit, on va t'envoyer, tu vas le regretter. Et effectivement, il l'a regretté. C'est parce que c'est une île qui était isolée. L'hiver, c'est complètement coupé du monde.
Il faut dire que les Britanniques ont commencé à essayer l'anthrax avec une petite île en Écosse.
OK.
Ils ont fait ça pendant quelques semaines, presque un mois, où ils ont testé avec des grenades. L'île était, disons, il y avait comme bétail des moutons. Mm-hmm. Ils ont décimé tous les moutons avec des grenades à l'anthrax. Ils ont dit, waouh, ça marche. Mais le problème, c'est que les spores se sont, non seulement ont tué tous les moutons, mais se sont répandus sur la côte, tuant le bétail. Alors Churchill a dit, oups, dangereux, on arrête tout, on envoie ça dans notre colonie. Et notre colonie, c'était...
C'était nous autres.
Grosse-Île, c'était l'endroit idéal pour ça, parce que c'est quand même relativement isolé, mais certains diront pas assez, là, parce uh-huh. que c'est quand même pas loin de Montmagny, 35 km de Québec, hein, mais c'est pas si loin. Mais il y avait déjà des installations, parce que peut-être vous connaissez un peu l'histoire de Grosse-Île, c'était l'île de la quarantaine
oui.
au 19e siècle, où il y avait des immigrants, donc il y avait des appareils pour désinfecter l'équipement, et puis c'était comme des gros prestos, c'est des espèces de... des autoclaves, on appelle ça comme ça. Donc, c'était pour contrôler la pression, la température. C'était idéal pour, en théorie, pour produire ce genre de bactéries, mais c'était désuet, ça datait du 19e siècle. Il y avait des problèmes graves. La tuyauterie coulait, il y avait des spores d'anthrax qui fuyaient d'un peu partout. Et en plus, il y avait des mouches, parce qu'il y a des mouches un peu partout. Et alors, les mouches pouvaient mettre leurs pattes sur les plateaux de spores d'anthrax. Puis, à quelques mètres de là, il y avait la cafétéria des soldats. Alors, vous pouvez imaginer un peu que c'était assez dangereux.
Oui. Et au départ, les scientifiques disaient, quand ils ont quitté l'Écosse, ou les Britanniques, ils ont recommandé, il nous faut une île à au moins 50 km de la côte.
Mm-hmm.
Grosse-Île est à 10 km de la côte.
Oh, OK. Fait que,
la colonie, c'était pas très grave. C'est
on
est de pas, quoi?
On n'était pas conscient de ce danger-là qu'on avait sous notre nez. Je sais que vous avez travaillé pendant de nombreuses années à essayer de retrouver des survivants et ainsi de suite. Je pense que vous êtes à l'origine d'un documentaire aussi.
Oui, effectivement.
Qui a été publié. Est-ce qu'il est disponible présentement,
oui.
quelque part,
oui,
sur
oui,
une
oui.
plateforme?
Si vous avez le livre, à la fin, il y a un code QR.
Okay.
Le code qu'on le scanne, puis ça va vous amener au lien où on peut voir le documentaire sur Internet.
Génial. Les autorités, les gouvernements, rétroactivement, est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui l'existence de cette usine-là qui fabriquait des bombes à anthrax?
Oui, c'est reconnu, mais il y a très peu de documents qui ont subsisté.
Mm-hmm.
Donc, nous, on en a retrouvé une partie aux États-Unis parce qu'ils s'échangeaient des copies. C'était des scientifiques américains, ouais, britanniques. Heureusement, ouais. heureusement, parce qu'au Canada, il y en a une partie qui a disparu. On a retrouvé aussi le rapport final de la production qui, lui, était dans un laboratoire, un centre de recherche en Alberta. Moi, je travaillais en Alberta à ce moment-là, donc j'avais pu avoir accès, je connaissais des gens à ce centre. C'est comme ça qu'on a pu un peu reconstituer l'histoire, mais ça a été assez compliqué.
Et vous allez comprendre dans le documentaire, si vous le voyez, tout un peu l'émotion des scientifiques qui ont travaillé, qui ont dit, lorsqu'on les a rencontrés, écoutez, on n'aurait jamais dû faire ça. Il y en a un des scientifiques qui s'est mis à pleurer. Il dit, jamais on aurait dû faire ça.
C'était bien trop risqué.
Voilà.
Incroyable. Messieurs, on fait de la radio à Québec. Parfois, on tourne les coins ronds. En préambule, j'ai dit, on a pris l'anthrax et on a sacré ça dans le fleuve. Comment on a disposé des bombes à anthrax quand on s'est rendu compte que ça n'allait pas servir?
Bien, ce qu'on nous a dit, c'est M. Stovall, Thomas Stovall, qui était un des scientifiques qui travaillait là, qui est encore vivant à l'époque, qui nous a raconté ça, parce qu'on n'a aucune preuve écrite.
C'est
son témoignage. Il nous a dit, on a pris, les spores étaient entreposés dans des espèces de grosses jarres, des contenants en vitre. Ils les ont transposés, on ne sait pas trop exactement comment, mais ils ont mis du formaldéhyde, semble-t-il. Donc, c'est une sorte d'eau de Javel, si vous voulez, là. Donc, pour détruire l'anthrax. Mais est-ce que ça a été bien fait? On ne sait pas. Mais après ça, il nous a dit que ça a été jeté, ça a été balancé dans le fleuve. Donc, c'est tout ce qu'on sait.
C'est cow-boy, c'est un moyen temps,
oui, le mot, c'est cow-boy, je pense.
Mais, le plus drôle aussi, c'est que le ministère de la Défense, lorsqu'on a posé des questions, où sont les documents précis sur cette période-là? Un des porte-parole mentionne, écoutez, lorsqu'il y a eu un déménagement des boîtes, des archives de la Défense nationale, malheureusement, les seules boîtes qu'on a perdues, ce sont les boîtes concernant le projet.
Comme par magie.
Ben oui, hein? Maudit, si tu plates, la seule boîte qu'on a perdue en chemin.
Sans tomber dans le monde plus ou moins merveilleux des conspirationnistes.
Oh, moi, je suis les deux pieds dedans avec l'histoire de même.
Avez-vous l'impression que des projets comme ça, à grandeur de l'Amérique du Nord, il n'y avait pas juste Grosse-Île, puis qu'on a développé d'autres technologies qu'on n'a pas utilisées, puis des histoires qu'on a peut-être cachées à la population?
Ben, au Canada, je ne sais pas, mais aux États-Unis, oui, parce qu'après, le projet N, il s'est transposé aux États-Unis. Les Américains, eux, ont terminé le projet, le projet de Churchill d'avoir 500 000 de bombes. Mais eux, ils l'ont mené à bien après la guerre.
Okay.
Donc, ils ont effectivement constitué un arsenal de guerre biologique à partir de ce qui avait été d'une partie de la production de Grosse-Île. Et effectivement, eux, c'est une autre histoire complètement, mais très secrète aussi. Mais les Américains ont un peu moins de problèmes à raconter leur histoire. Je pense qu'ils ont moins de susceptibilité. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on en sait un peu plus sur cette histoire-là maintenant.
Oui, et il faut penser aussi que c'est 70 milliards de spores d'anthrax qui étaient à la Grosse-Île.
Mm-hmm.
Et au niveau de la mortalité, c'est 90 %. Et les spores d'anthrax militaires, ceux qui étaient à Grosse-Île, ont une durée de vie, selon les scientifiques, entre 80 et 100 ans.
Donc, si, mettons, ils ont été mal détruits, encore aujourd'hui, ils peuvent être actifs.
Ouais. Théoriquement, c'est possible, oui. Mais il y a 439 litres aussi qui avaient été produits, donc...
Bon, ben, moi, je vais y aller.
Ça dans votre jardin.
messieurs, je trouve ça fascinant. Je pense qu'on mérite d'en entendre parler davantage collectivement, à quel point que ça s'est passé sous notre nez, puis que ça a été dangereux, que ça a été risqué, puis qu'on n'est même pas au courant de cette histoire-là. Vous êtes au Salon du Livre tout à l'heure?
Oui, on va être là dans 17h30.
17h30 au Salon du Livre. Ça s'appelle Le Projet N. Yves Bernard, Vincent Frigon, merci infiniment.
Quel beau travail.
J'ai très, très hâte de lire ça en fin de semaine. Il est 15h19. Le projet N. On bâtissait des bombes à l'anthrax à Grosse-Île, juste à côté. Il avait dit qu'il faut que ce soit à 50 km des côtes. Oh! À 10 km, on va être
ça
correct.
Ça va faire.
Hein? Ouais, pas stressant pantoute. Puis quand ça n'a pas servi, on a tout sacré ça dans le fleuve Saint-Laurent. Oh boy, j'espère que le monde a changé. On s'arrête, on revient, ce sera pas long. Gravel. Dans le